Europe Soir, le 18-20.
Et on est ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, le journal de Romain Oquet. Puis plusieurs rendez-vous dans la prochaine heure. 19h15, le conseil lecture de Stéphane Place. 19h20, le club des idées. Est-ce que vous voyagez comme avant, après cette pandémie? Est-ce que est-ce la fin du tourisme de masse? Votre avis m'intéresse. Vous nous contactez 39-21. Et puis à 19h40, le club tour avec Richard Virenc et Axel May. Mais d'abord, toute l'info de ce début de week-end avec vous, Romain Oquet. Rebonsoir, Romain.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Bon début de soirée sur Europe 1. Il est 19h.
L'Europe sous le choc après des inondations dévastatrices. Plus de 120 morts en Belgique, en Allemagne, où 1300 personnes sont toujours portées disparues après un impressionnant glissement de terrain. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial.
Éric Dupond-Moretti, mis en examen, une première sous la 5e République pour un ministre en exercice. Une décision attendue pour son avocat, vous l'entendrez.
Une actualité à laquelle n'a pas échappé le chef de l'État en déplacement dans les Pyrénées pour soutenir le secteur du tourisme, paralysé par la reprise de l'épidémie. Les contaminations progressent dans tous les territoires, nous dira Virginie Riva.
Et le pass sanitaire, est-ce la solution pour profiter des vacances en contrôlant l'épidémie? Non, nous dira le président de l'Office de tourisme de Paris.
Et puis le Tour de France avec la victoire d'un Slovène, Matej Mohoric a franchi en tête la ligne d'arrivée à Libourne en Gironde. Pogacar conserve le maillot jaune à 2 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées.
La tendance météo avec vous, Marlène Duré.
Un week-end comme on les aime, estival avec le retour du soleil dans les régions du Nord-Est. C'est parti pour 6 jours de beau temps, 6 ou 7 d'ailleurs, et les températures remontent.
Parfait.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un gouffre de plusieurs dizaines de mètres où se déversent des masses de terre, des débris, des eaux brunies. C'est le résultat d'un glissement de terrain en Allemagne où le bilan ne cesse de s'alourdir. Au moins 103 personnes sont mortes depuis le début des intempéries.
Mélina Fachin, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Erfstadt-Blessem près de Cologne en Allemagne. C'est dans cette commune qu'a lieu cet impressionnant glissement de terrain. Un immense cratère, Mélina.
Oui, c'est vraiment très impressionnant. De nombreux habitants du coin restent hébétés devant ce trou gigantesque qui s'est formé ce matin. Certains sont en larmes, se serrent dans les bras. C'est bien simple, toute une partie du village a disparu en quelques minutes, engloutie par les eaux boueuses de l'Erft, la rivière. En fait, c'est tout un pan de la colline sur laquelle se trouve cette petite commune qui s'est effondrée sur elle-même. Elle a emporté plusieurs habitations, des voitures, la moitié d'un centre équestre complètement éventré. C'est spectaculaire. Et puis, comme dans les autres villages de cette région de l'Allemagne ravagée par les pluies torrentielles de ces derniers jours, de très nombreuses maisons ont été envahies par les eaux. Un habitant m'a raconté qu'il s'était retrouvé avec de l'eau jusqu'au buste, le visage encore plein de boue sous le choc. Il m'a montré son jardin qui s'est transformé en étang. C'est un miracle, a-t-il dit, s'il a la vie sauve. On ne sait pas encore précisément combien de personnes sont mortes ici à Erfstadt-Blessem, mais beaucoup d'habitants du coin sont toujours portés disparus.
Merci beaucoup Mélina Fachin, près de Cologne, donc en Allemagne pour Europe 1.
La France solidaire dans l'épreuve traversée par nos voisins, assure Emmanuel Macron dans un tweet cet après-midi. 60 militaires français et un hélicoptère sont arrivés à Liège, en Belgique, hier soir. La Belgique qui compte aussi 23 victimes liées à ces intempéries. Une journée de deuil national a été décrétée mardi dans le pays.
Un garde des Sceaux mis en examen, c'est une première sous la 5e République pour un ministre de la Justice en exercice.
Une sanction pour Éric Dupond-Moretti. Le ministre était entendu depuis ce matin par la Cour de justice de la République.
Les 3 juges instructeurs ont estimé qu'il y avait des indices graves à l'encontre du garde des Sceaux, soupçonné d'avoir réglé ses comptes d'avocat grâce à sa position de ministre.
Christophe Ingrin, l'un des avocats d'Éric Dupond-Moretti, dénonce lui une mise en examen qui était déjà acquise.
Il a apporté tout au long de cette audition des explications très claires et très précises sur les faits qui lui sont reprochés. Ces explications n'ont malheureusement pas suffi à renverser une décision qui a été prise avant l'audition. Le rejet de la totalité de nos demandes, le déroulement de la procédure, l'accélération de la procédure ces dernières semaines, tout nous laissait penser que, évidemment, la décision était prise et que, évidemment, Éric Dupond-Moretti allait être mis en examen. Nous allons évidemment désormais la contester, cette mise en examen, dès la semaine prochaine. De même que dès la semaine prochaine, nous demanderons l'audition du procureur général près la Cour de cassation pour que la vérité soit faite sur les faits pour lesquels Éric Dupond-Moretti a été convoqué aujourd'hui.
Maître Christophe Ingrin au micro de Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Là, et même loin de Paris, hein, Emmanuel Macron est rattrapé par l'actualité de son ministre de la Justice.
Le chef de l'État poursuivait aujourd'hui son tour de France dans les Hautes-Pyrénées, un déplacement que vous suivez, Hélène Terzian pour Europe 1. Emmanuel Macron vient d'achever un bain de foule de plus d'une heure.
Effectivement, alors entre deux selfies, au milieu des centaines de pèlerins qui l'attendaient, le chef de l'État est interrogé sur l'actualité et très vite, il évacue la mise en examen de son garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.
D'abord, ça ne me semble pas être le lieu adéquat et donc je pense qu'on ne peut pas avoir des commentaires d'actualité, surtout en tant que président de la République, il convient de dire et de ne pas dire. Voilà.
En revanche, ce qu'Emmanuel Macron est bien venu dire ici à Lourdes, c'est que dans cette ville, ville touristique la plus sinistrée par la crise, l'État soutient l'économie locale.
C'est à la fois évidemment une ville de pèlerinage, c'est aussi une ville touristique et donc c'est un message de confiance et de soutien pour le sanctuaire. On a mis en place un plan exceptionnel de 124 millions d'euros qui a permis d'accompagner depuis le début le monde économique. Et maintenant, nous allons accompagner à la fois cette phase qui reste encore très fragile et la reprise.
Le message est économique. Dans l'entourage, on assure qu'il ne faut pas y voir un message particulier à l'égard de la communauté catholique. Reste qu'Emmanuel Macron sera désormais le premier président de la 5e République à s'être rendu dans le sanctuaire.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1.
Le tourisme, justement, secteur crucial en Occitanie, où vous partez peut-être en vacances ce soir d'ailleurs.
Eh bien, dans le département des Pyrénées-Orientales, oui, le revoilà, le retour du masque obligatoire en extérieur, sauf à la plage et dans les grands espaces naturels.
Et la mesure débute demain, prévue jusqu'au 2 août pour contrer la progression du variant Delta. Dans ce département le plus touché par la reprise, le taux d'incidence a été multiplié par 10 en 10 jours.
Un indicateur qui augmente désormais dans tous les territoires et même dans toutes les tranches d'âge, Virginie Riva.
Oui, et il est actuellement de 40 pour 100 000 habitants contre 25 la semaine dernière, soit une augmentation de 62% en une semaine, une incidence particulièrement marquée chez les 10-39 ans. Et si on prend la tranche des 20-29 ans, on est à 115 cas pour 100 000 habitants. La seule bonne nouvelle, c'est que les indicateurs hospitaliers restent encore en baisse, à l'exception de la Martinique, de la Normandie et de l'Île-de-France, où les hospitalisations reprennent à la hausse et en Martinique dans des services critiques. Si on prend la carte de France, il y a trois régions particulièrement inquiétante, Occitanie, Île-de-France et PACA. Là, les taux d'incidence sont supérieurs à 50 pour 100 000 habitants, avec deux départements particulièrement sous surveillance, les Pyrénées-Orientales et la Haute-Corse. Face à cette dégradation, il n'y a pas de fatalité, a martelé Santé publique France. Seule solution, la prévention, en maintenant les gestes barrières, en limitant les situations à risque, en s'isolant dès les premiers symptômes avant de faire un test rapide. Le pire n'est pas écrit si on compte aussi sur l'augmentation de la couverture vaccinale. Plus de 28 millions de Français à ce jour ont une couverture vaccinale complète, soit 42,5% de la population.
L'éclairage de Virginie Riva du service Société d'Europe 1.
Et pour contrer la progression du virus, le gouvernement, on le sait, mis sur le pass sanitaire. Il sera obligatoire dès mercredi prochain pour les lieux de culture et de loisirs.
Comme pour se rendre, Thierry, par exemple, en haut de la Tour Eiffel, après 9 mois de sommeil, elle a rouvert ses portes et ses ascenseurs aujourd'hui.
Bonsoir Jean-François Rial.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'Office du tourisme de Paris. Jean-François Rial, est-ce que vous craignez que ce pass sanitaire freine le retour des touristes ?
Non, parce que je pense que c'est une bonne mesure sur le fond. Il a pour vocation à rassurer. Par contre, il faut que la logistique technique fonctionne très bien. Par exemple, on a encore quelques petits soucis sur les ressortissants américains ou je dirais les étrangers qui ne sont pas de l'Union européenne et qui ont un passeport, qui ont une vaccination complète, y compris avec des vaccins aériens Union européenne, et pour lesquels le pass sanitaire fonctionne encore un peu mal. Mais je pense que le gouvernement qui a été alerté là-dessus va régler ça. Je dirais que le pass sanitaire, c'est une super bonne idée, mais il faut que ce soit totalement fiable et totalement fluide, quoi.
Justement, pour l'améliorer, quelles sont les pistes pour vous, Jean-François Rial, pour améliorer cette fluidité ?
Bah, il faut interconnecter toutes les données internationales sur le pass sanitaire. Il faut que la lecture soit extrêmement rapide. Il faut que tous les gens qui sont vaccinés complètement puissent accéder dans un flux extrêmement rapide au restaurant, à la Tour Eiffel, au musée, etc., etc., et qu'on soit pas obligé de sortir des papiers, et que le papier ne corresponde pas, ou que le vaccin américain Moderna fait par un Américain soit contesté par l'entrée. Tout ça, il faut que ce soit très, très simple.
C'est trop complexe.
C'est la seule façon de rendre la confiance.
C'est trop complexe et instable, du coup, pour les clients.
Alors, aujourd'hui, pour les Français et pour les Européens, c'est très, 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 très facile et pas complexe du tout. Ça fonctionne très bien. Là où on a un souci, encore, on n'a pas trop de flux pour l'instant, donc ça va. Mais on a un vrai souci sur les ressortissants non européens pour lesquels on a des problèmes de compatibilité, des problèmes de règles. Mais je dirais que ça devrait se régler, quoi. Et j'espère que le gouvernement, et je pense que le gouvernement sera, entre guillemets, souple pendant la phase de transition que sera le mois d'août. Parce que je dirais que les opérateurs touristiques ont été très fortement touchés, à Paris particulièrement, hein, très très fortement touchés. Donc il faut que qu'on casse pas la reprise. L'idée du gouvernement, c'est de laisser faire à ceux qui sont vaccinés beaucoup de choses et de freiner ceux qui sont pas vaccinés. Eh bien, moi j'approuve cette mesure, mais il faut y aller à fond,
merci,
quoi,
merci,
dans les deux sens, c'est-à-dire que.
Merci beaucoup Jean-François Riel, voilà. pour votre
Merci
temps.
Beaucoup.
Je rappelle que vous êtes le président de l'Office du tourisme de Paris.
Et on va continuer justement à parler tourisme dans un instant avec les nouvelles tendances d'après Covid dans le Club des Idées. Ce sera à partir de 19h20. À 19h10, la suite du journal avec vous, Romain Noquet, avec un peu de paillettes et de strass, de glamour. Et pour un vendredi soir, eh bien, ça va faire du bien.
Évidemment, Thierry, j'espère que vous avez votre tenue. On part au Festival de Cannes avec Les Intranquilles, dernier film présenté en compétition. Un long métrage signé Joachim Lafosse. Et la projection vient juste de démarrer, Mathieu Charrier.
Oui, Les Intranquilles qui racontent jusqu'où est-on prêt à aller par amour. On est prêt à accepter finalement par amour. En l'occurrence, Leïla, c'est Leïla Bekti, vit avec Damien, joué par Damien Bonnard. Ils ont un enfant, Damien est prêt à le rester vieux meuble, que Damien teint bipolarité. Et que pour créer, pour peindre, il préfère arrêter son traitement, ce qu'il met dans de sales états. Leïla doit gérer, mais jusqu'où? Quelle limite? Écoutez l'actrice.
L'amour, il n'y a rien de plus irrationnel que l'amour. Il n'y a rien de plus fou que l'amour et ça parle aussi de folie. Alors de folie qu'on diagnostique dans le cadre de Damien qui joue le rôle de mon mari. Et une folie du quotidien, on va dire, qui contamine le personnage que j'interprète. J'aimais aussi l'idée que ce qui est rock'n'roll aujourd'hui, c'est plus de se séparer au bout de 2 ans, c'est de rester encore et encore malgré les épreuves. Moi j'ai adoré, ça a été compliqué, c'était très très intense, mais j'ai adoré faire ce film.
Voilà, Les Intranquilles, film passe qui sortira le 6 octobre. Et c'est le dernier film, effectivement, des 24 présents Spike Lee et son jury. Tôt demain matin, ils vont se retirer et dérer jusqu'à s'en sur un palmarès dévoilé demain soir.
Et il y a comme de la friture sur la ligne. Merci Mathieu Charrier. Néanmoins, on a tout compris en direct du Festival de Cannes pour Europe 1.
Et demain, Mathieu Charrier, on vous retrouve pour votre émission Clap sur Europe 1, une émission spéciale cérémonie de clôture en partenariat avec Canal+. Rendez-vous de 19h15 à 20h30.
Et tout de suite, on part sur la route du Tour pour la 19e étape.
Le Tour de France. L'événement est sur Europe 1.
La grande boucle qui quitte aujourd'hui les Pyrénées remonte jusqu'à la région bordelaise. 207 km sur du plat avec une arrivée à Libourne en Gironde.
Et c'est Matej Mohoric qui s'impose. La deuxième victoire d'étape pour le Slovène de l'équipe Bahreïn. Et le champion est revenu sur la perquisition subie il y a 2 jours par son équipe lors de l'étape à Pau.
J'ai repensé à ce qui s'est passé il y a 2 jours quand la police a débarqué le soir et m'a traité comme un criminel. Mais si je prends un peu de recul, c'est une bonne chose, car ça veut dire qu'ils contrôlent toujours s'il y a du dopage ou pas sur le tour. Ils contrôlent toutes les équipes, et bien sûr, ils n'ont rien trouvé chez nous, car on n'a rien à cacher. D'un autre point de vue, je suis un peu déçu par le système, car je ne pensais pas que c'était comme ça que la police se comportait en entrant dans votre chambre, en retournant tout ce que vous avez, alors qu'on n'a rien à cacher. C'est un peu bizarre, ça ne m'était jamais arrivé. Et quand ils fouillent dans vos photos personnelles, dans vos messages, voilà, c'est bizarre. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai rien à cacher. Donc au final, ça va.
Matej Mohoric au micro de Marguerite Lefebvre, que l'on retrouve demain pour la 20e étape, l'avant-dernière de cette grande boucle avant une arrivée prévue dimanche sur les Champs-Élysées.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy, l'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Merci beaucoup Romain Noquet pour ce journal. On vous retrouve bien sûr à 20h. Marlène Duré, c'est parti pour 6 ou 7 jours de beau temps, ça y est.
Ah oui, c'est vrai, on peut y croire. Avec un petit bémol dans les Alpes où l'on attend quelques petites averses. Et puis on entrevoit une dégradation par le nord-ouest vendredi, mais ne nous projetons pas trop loin et profitons déjà du soleil ce week-end. Alors il faut dire que le beau temps va mettre un petit peu de temps à s'installer entre les Hauts-de-France, la Normandie, le Massif centrale et nord de Rhône-Alpes ainsi que dans toutes les régions du nord-est. Beaucoup de nuages bas le matin avec quelques gouttes possibles entre l'Auvergne et le Lyonnais. Un petit risque d'averse peut persister aussi en Alsace et dans les Vosges. Ailleurs, allez, on petit déjeune au soleil.
Ah, bien ça.
Alors j'ai un petit message pour les baigneurs sur les plages du côté de Marseille, Cassis. Ouais. L'eau sera à 17 degrés, c'est frais.
Parce Tramontane.
Tramontane, Mistral, eh oui. Exactement.
Eh ben voilà.
Les vents repoussent les eaux chaudes de surface au large. Ouais. Les eaux profondes plus fraîches remontent. C'est le phénomène de upwelling.
Eh ben oui.
Pour que l'eau se réchauffe, il faudrait qu'il y ait des vents de sud qui ramènent comme ça les eaux chaudes vers le bord de mer. Alors, les températures, au meilleur de la journée, 22 degrés sur la pointe du Cotentin. Nous aurons 24 à Dijon, Clermont-Ferrand. 24 également du côté de Thonon-les-Bains. 25 à Lille, 27 à Paris et à Tours. 28 à Arcachon, 29 degrés à Valence, Toulouse, Ajaccio. 30 degrés à Mont-de-Marsan et ça monte jusqu'à 32 à Perpignan et même localement 34-35 degrés dans les régions méditerranéennes.
Merci beaucoup Marlène. Allez, dans un instant, on parle tourisme avec votre Club des Idées. Mais vous le savez, hein, juste avant tous les soirs de l'été, rendez-vous pour une découverte littéraire avec Stéphane Place en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Ce soir, Impressions et lignes claires, écrit à quatre mains par Édouard Philippe et Gilles Boyer.
Peut-être vous souvenez-vous de ce film très réussi il y a 10 ans avec Michel Blanc et Olivier Gourmet, L'exercice de l'État, une fiction qui racontait les coulisses du fonctionnement d'un ministère. Eh bien, c'est aussi l'ambition d'Impressions et lignes claires, mais à la différence que ce livre est co-signé par deux acteurs bien réels de la politique, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et son ami, qui fut aussi à Matignon son conseiller, Gilles Boyer. Durant très exactement 1145 jours, l'actuel maire du Havre a dirigé le gouvernement avec à ses côtés son complice de toujours, Pierre Coutel, libraire chez Mola.
Le choix qui a été fait dans ce livre-là, c'est pas de faire un journal au jour le jour, de l'entrée à Matignon jusqu'à la fin. Mais comme le dit le titre, c'est effectivement Impressions et lignes claires, c'est-à-dire que c'est au travers de thèmes qui est, par exemple, qu'est-ce que c'est que prendre le pouvoir? Comment est-ce qu'on arrive dans des lieux qui sont souvent vidés des cartons et des dossiers? Comment est-ce qu'on se met au travail? Qu'est-ce que ça signifie à la fois coincé entre une forme de mondanité et puis aussi le fait que on sait que l'action politique doit agir vite quand on arrive au pouvoir? Ce n'est pas un livre politique classique au sens où c'est quelqu'un qui exposait sa doctrine. Matignon, c'est là à la fois où on doit mettre en œuvre une politique et en même temps, c'est là où viennent converger toutes les sollicitations et surtout tous les problèmes.
Et de son passage à Matignon, Édouard Philippe tire notamment cette réflexion.
Gouverner et présider sont deux arts très différents. À Matignon, on prend chaque jour un très grand nombre de décisions. Mais ce que vous pouvez espérer au mieux, c'est que l'ensemble de ces petites touches finissent par décider quelque chose de cohérent. Là où, à l'Élysée, on doit déterminer un cap, d'où une thèse qui s'inscrit un peu en contre-pied du discours dominant depuis 2007, puisque Nicolas Sarkozy d'abord, François Hollande ensuite, ont théorisé ou conclu de la mise en œuvre du quinquennat, des réseaux sociaux, enfin bref, de 1000 facteurs, qu'au fond, les institutions commanderaient que le président préside et gouverne en même temps, ou que le Premier ministre disparaisse, ce qui est la thèse de François Hollande. Évidemment, nous disons que ça nous paraît totalement faux. On pense que les institutions sont conçues pour qu'un Premier ministre puisse gouverner sous le contrôle du Parlement, car la Ve République est un régime parlementaire.
Juppéiste Édouard Philippe et Gilles Boyer racontent la visite amicale à Matignon un jour de 2019 de celui qui a été leur patron longtemps et Premier ministre 22 ans plus tôt. Alain Juppé fixe son successeur, son héritier politique, et lui glisse « Ce poste est impossible et ça ne s'arrange pas. Mais vous verrez, Édouard, vous verrez. Un jour, tout ça vous manquera. Pas pour l'instant, mais n'excluons pas que cela puisse venir », peut-on lire dans les dernières pages d'Impressions et lignes claires.
Stéphane Place en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux.
Europe 1, Thierry Dagiral.
19h18, dans un instant, on ouvre le Club des Idées. Ce soir, on parle vacances. Est-ce que la pandémie a changé notre façon de partir en voyage? Est-ce que c'est la fin du tourisme de masse pour un retour à la nature, par exemple? On échange nos expériences, bien sûr, 39-21. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et ce soir, on ouvre le débat du Club des Idées. Peut-être que vous êtes parti ou vous partez en ce moment même en week-end ou en vacances. On va s'intéresser justement au tourisme. C'est sûrement le secteur le plus touché par la pandémie et qui est en pleine mutation. Du coup, temps long, écotourisme, immersion, besoin d'expériences nouvelles. Il y a une prise de conscience autour du tourisme de masse et les demandes des voyageurs, en tout cas, sont en train de changer. On va en parler ce soir avec Jean-Pierre Nadir. Bonsoir.
Bonsoir Thierry.
Merci d'être en studio avec nous, fondateur bien sûr de Easy Voyage. Vous venez de lancer Fairmove, c'est une plateforme de tourisme responsable, on en parlera tout à l'heure. Avec nous également Lucas Schmitter, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de Croise Europe. Et Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomade Aventure, tour opérateur spécialisé dans les voyages d'aventure. On va également en parler largement avec vous. Jean-Pierre Nadir, on le disait, est-ce que, en sortant de cette pandémie, finalement, on a pris conscience que le tourisme de masse n'était pas bon, que c'était dangereux, et que finalement, on découvre de nouvelles formes de voyage de tourisme?
Alors moi, je dirais qu'on découvre de nouvelles formes de voyage et de tourisme, mais que ce n'est pas forcément à mettre en opposition avec ce que vous appelez le tourisme de masse, qui est en fait un tourisme populaire qui a réussi. C'est-à-dire que le tourisme de masse, c'est quoi ? C'est que c'est l'aboutissement des congés payés qui fait que le plus grand nombre peut partir et que ce volume de gens ne cesse d'augmenter partout dans le monde, puisque avant le Covid, on était à 1,5 milliard de voyageurs et qu'on pense qu'on va effectivement atteindre rapidement, donc on va dépasser les 2 milliards. Donc en tous les cas, c'était les chiffres, donc les tendances sur lesquelles nous étions. Donc face à ça, c'est aux professionnels du tourisme de s'organiser pour répondre intelligemment à cette demande donc, d'évasion. Et donc à la question, est-ce qu'on est en train de réfléchir à comment on peut réorganiser tout ça ? La réponse, évidemment, donc, est oui. C'est-à-dire que pendant le Covid, on a eu le temps de réfléchir à plein de choses. Et évidemment que déjà après Covid, la petite musique donc, qu'on entendait était une petite musique assez défavorable sur le surtourisme, sur les problématiques écologiques. Et aujourd'hui, il est important d'apporter donc, des réponses, et des réponses durables, et des réponses qui sont en plus vertueuses. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de faire voyager moins de monde, c'est de faire mieux voyager les gens.
Fabrice Deltaglia, je rappelle que vous êtes directeur général de Nomade Aventure. Justement, vous avez vu de nouveaux clients arriver vers vous, des clients qui ne seraient jamais venus peut-être, mais qui, dans ce moment-là, découvrent finalement une nouvelle voie, ou en tout cas ont une nouvelle envie de voyager différemment.
Cette année, nous avons d'abord moins de clients encore qu'en 2019, bien évidemment.
Bien sûr.
Ouais, oui. Néanmoins, de toute évidence, le modèle que nous proposons les agences de voyage d'aventure et Nomade en particulier a plutôt été validé par la crise que nous avons subie, dans la mesure où elle propose des voyages plutôt avec une moindre empreinte carbone à destination, puisque principalement à pied ou avec des modes de déplacement doux. Il reste néanmoins, bien sûr, la problématique des émissions de CO2 pour parvenir à destination. Mmh. Et c'est là que l'absorption de ces émissions que nous pratiquons depuis 2 ans s'est beaucoup plus imposée, au moins en termes d'intention cette année auprès de tous les opérateurs. Ouais. C'est à voir si ce sera transformé dans le futur.
Bien sûr. Lucas Schmitter, même constat chez vous. Je rappelle que vous êtes directeur de Croise Europe.
Oui, alors c'est Croise Europe, je vois que j'ai un petit peu de mal à le prononcer. Même constat chez nous. Alors nous, on propose des croisières sur des bateaux à taille humaine, puisqu'on est sur les fleuves et les canaux principalement. Et on observe clairement une volonté aujourd'hui de notre clientèle de vraiment d'authenticité et puis d'expérience au plus proche de la culture et surtout au plus proche de la nature.
Je voudrais qu'on revienne, Jean-Pierre Nadir, avec vous sur ce secteur donc, qui a été très touché. Le secteur a perdu plus de 70% de son chiffre d'affaires en 2020. Ça semble repartir aujourd'hui.
Bah, c'est un peu stop and go, hein. Ça repart et puis ça repart. Ça repart.
À chaque annonce,
dans l'autre sens. Ouais. Chaque annonce, chaque jour, donc sa peine ou en tous les cas donc ses espérances. Mmh. Ce qui est intéressant, donc, c'est de constater qu'il y a effectivement donc toujours une volonté donc très forte donc de découverte, d'envie d'aller voir ailleurs. Ouais. Que cet ailleurs d'ailleurs peut être loin, mais aussi très proche. Hein. Donc c'est ce qu'on a aussi redécouvert, c'est que la France donc et notamment donc les territoires ont fait à l'occasion donc des événements que nous venons de vivre, ont fait de gros efforts pour proposer de nouvelles expériences, pour accompagner donc ce besoin d'un tourisme donc plus authentique, d'un tourisme plus lent, puisque ce qui a été dit là, c'est qu'en fait, on est dans un tourisme maintenant contemplatif, donc davantage que dans un tourisme d'action frénétique où on voulait en faire toujours plus. Là, on est dans le comprendre mieux.
Qu'est-ce que vous remarquez? Quelles sont les attentes de vos clients aujourd'hui? Quelles sont les destinations phares?
Déjà, ce qu'on constate, c'est que 80% aujourd'hui donc, des clients ont une petite conscience donc, écologique, ce qu'a rappelé Fabrice. Donc, en tous les cas, ils se posent des questions. Et donc, ça, c'est déjà intéressant puisqu'on voit qu'il y a un mouvement. Parce que n'oublions pas que le tourisme responsable, ça part quand même d'un touriste responsable. avant toute chose, on est tous responsables de nos actions et le touriste, effectivement, donc, comme les autres. Et donc, cette année, on voit bien qu'évidemment, il y a une grosse part de France, puisque 10% seulement, donc, a priori, des Français pourront à l'étranger. Il y a 5-6 destinations qui fonctionnent à peu près donc, correctement, dont une qui est la grande star de l'été, en dehors de la France, qui est la Grèce. Mmh. Donc la Grèce qui très tôt donc, a pris des vraies mesures et qui très tôt donc, a eu un discours très positif vis-à-vis de l'accueil des touristes.
Alors, on dit que la campagne et le vert sont également plébiscités. Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomad Aventure, cette envie de grands espaces, vous la sentez particulièrement? Ça date de cette pandémie ou déjà il y avait une demande avant?
Alors pour les personnes qui voyagent avec Nomad Aventure, naturellement, la demande était déjà présente.
Bien sûr.
Nous ne ferons que des voyages en plein air, que ce soit de la randonnée ou d'autres formes de voyages. Ouais. C'est toujours au plus proche de la nature, de toute façon, depuis l'origine. Cette année, je pense que c'est renforcé aussi par trois confinements qui ont accru encore le besoin de grand air, de nature, de campagne, de montagne. Et effectivement, y compris la nature en France, puisque aujourd'hui, en revanche, je disais qu'on avait moins de clients qu'en 2019, mais pas sur la France, où on en fait à peu près 3 fois plus qu'en 2019. Donc il y a évidemment un engouement très fort, et chez nous en particulier, au profit de régions, pas toujours les régions phares, et en tout cas celles à l'abri du surtourisme. Ouais. Ça peut être la Drôme, les Pyrénées, etc., même le Jura, et donc pas forcément les régions les plus importantes auxquelles on pense. Ouais. Dans des formules qui sont très variées d'ailleurs, il n'y a pas une formule unique de se reconnecter avec la nature.
Ouais.
Cette année, par exemple, on a aussi bien fait marcher un voyage en paddle sur la Dordogne, que plusieurs formules mêlant yoga et randonnée, justement, dans les Pyrénées, par exemple, dans la Drôme ou en Bretagne, ce qui d'ailleurs est assez cohérent, puisque on a le même souci de reconnexion avec soi-même et avec la nature.
Lucas Schmitter, directeur donc de CroisiEurope. Quelles sont les tendances chez vous en ce moment et après cette pandémie?
Bien, écoutez, on observe absolument les mêmes que nos confrères.
Ouais.
Une clientèle française qui recherche de la France. On est présent sur tous les grands fleuves français, la Seine, le Rhône, la Loire, la Gironde. Donc c'est vrai que d'habitude, les clients français cherchent plus des destinations plus lointaines ou européennes. Et donc, on observe vraiment ce phénomène cette année avec une vraie volonté de redécouvrir son pays. Et puis, c'est vrai qu'on a la chance d'habiter dans le plus beau pays du monde. Donc forcément, on a plein de choses à voir. Et quand c'est au fil de l'eau, c'est encore mieux.
Allez, les nouvelles tendances de vos vacances, de vos voyages, on continue à en parler dans un instant sur Europe 1. Vous intervenez, 19-39-21, bien évidemment. Je vous attends. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et c'est la suite de votre Club des Idées. Ce soir, vendredi soir, vous êtes peut-être sur la route, vous partez en vacances, justement. On va parler de vos vacances, des nouvelles tendances des vacances. Est-ce que finalement, nos envies ont changé après cette pandémie? On en parle avec Lucas Schmitter, directeur de CroisiEurope, Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomad Aventure, et Jean-Pierre Nadir, fondateur de Easy Voyage. Jean-Pierre Nadir, les clients que vous voyez en ce moment, avec un budget moyen, ils vont où? Ils consomment quoi précisément? Quelle est la demande du moment?
Ce qui est intéressant de voir, c'est que là encore, donc, il y a des nouveaux modèles qui se mettent en place, et notamment donc, en termes d'hébergement.
Ouais.
On voit depuis maintenant 2-3 ans, mais ça s'est beaucoup accéléré ces derniers temps, et ça fait le pont avec ce qui a été dit précédemment sur la reconnexion avec la nature. Mmh. C'est tout le développement du clamping, c'est-à-dire du camping un peu glamour, la réinvention de ces hébergements autour justement de matériaux nobles comme le bois. On voit les villas, les roulottes, les cabanes dans les arbres, tous ces modèles. Vous savez, en France, on a 8800 campings, on en a 3000 qui sont vraiment des très gros paquebots, et on a maintenant donc près de 1200 hébergements de ce type, comme je viens de l'évoquer.
Ouais.
Et ça, c'est un phénomène extrêmement, extrêmement fort, donc, parce que ça permet finalement d'allier donc, ce besoin donc, d'espace. Vous avez souvent des très grands terrains, donc plus de 15 hectares, dans des grands parcs donc, très naturels, qui permettent de faire ce qu'on a dit là, c'est-à-dire d'avoir des activités sur des lacs, d'avoir des circuits de randonnée, et puis aussi d'avoir un hébergement très, très sympathique, très familial. Donc autour, encore une fois, de matériaux, car rappelons-le, donc l'empreinte carbone qu'évoquait tout à l'heure Fabrice, le bâti et la construction, c'est 40% du problème de l'empreinte carbone. Donc aujourd'hui, ces matériaux, effectivement, donc contribuent aussi à absorber donc du CO2 et permettent effectivement donc des bâtis nobles.
Jean-Pierre Nadir, ça veut dire que cette époque est complètement révolue, celle où on voulait finalement se retrouver dans, allez, sans faire de pub, dans sa chambre de motel. On voulait la même chambre partout dans le monde.
Ah oui, ça c'est sûr, c'est révolu.
Là, c'est fini.
Parce que j'allais dire justement que
il faut de la typique,
il en faut pour tout le monde.
Différent.
Et donc moi, je crois qu'il faut surtout dire effectivement donc qu'il y a là pour tous les budgets et que le tourisme responsable ou écologique doit pas devenir un tourisme pour riche. Il faut effectivement que ça reste abordable. Moi, ce que je viens d'évoquer comme hébergement là, c'est 1 500 € la semaine pour 4 personnes. Donc ça reste effectivement donc dans les budgets. Vacances donc des Français. Ce qu'il y a de certain aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin d'authenticité et un besoin de reconnexion avec le local. Et ça qui est très intéressant, c'est que le tourisme
cette
peut être un levier.
Depuis combien de temps?
Ah bah, ça fait 3-4 ans qu'on voit le phénomène. D'accord. Et notamment en France, ça a été lancé beaucoup par les maisons d'hôtes. Vous savez qu'on est le pays des maisons d'hôtes. On a 22 000 maisons d'hôtes. Et ces maisons d'hôtes, elles ont proposé très tôt des produits locaux.
Donc il faut aller au contact des habitants, c'est ça, voir les vrais gens, entre
Alors,
guillemets.
Il y a ça. Et puis il y a surtout, il faut réintroduire et développer donc, les produits locaux. C'est-à-dire que les gens, ce qu'ils veulent, c'est manger des produits bretons en Bretagne et manger effectivement donc, des produits auvergnats en Auvergne. Et donc ça répond à votre question qui était de dire mais à une époque, on voulait avoir la même chose partout. Aujourd'hui, c'est clair que c'est le trait à la différence.
Ça veut dire qu'on connaissait les voyages gastronomiques, les dégustations de vin, etc. Tout ça, ça prend de l'ampleur en ce moment. Il y a une vraie forte demande.
Ah bah, le no-tourisme, évidemment, donc, ça s'est beaucoup développé. Parce que là vous avez effectivement donc, une alchimie parfaite. Quoi. Vous pouvez le faire en vélo. Donc vous êtes sur une mobilité lente, donc bien dans l'époque. Et puis, vous avez évidemment donc, des dégustations, donc de la découverte, donc de l'expérience. Et puis, vous avez du rapport avec les producteurs. Et puis, vous avez de la connaissance. Là aussi, le tourisme, effectivement, donc, de connaissance et un tourisme qui se développe. Un mot là-dessus, un sondage récent donc, a été fait par la plateforme Orchestra qui démontrait que 57% des Français qui vont à l'étranger donc, sont prêts à manger que des produits locaux. Il y a juste une chose qu'ils veulent garder, le café. Et 80% le vin aussi, quand même.
Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomad Aventure. Vous, les tendances en ce moment, quelle est la demande des clients, et notamment depuis là, ces derniers mois?
Alors, cette année, la première des tendances, c'est le recentrage sur la France. Hein, ouais. Mais évidemment, principalement par effet de nécessité. Même si on est heureux de redécouvrir notre pays, une grande partie de nos voyageurs regrettent de ne pas pouvoir partir à l'étranger. D'ailleurs, actuellement, nous avons quand même, rien que ce week-end, nous avons des gens qui partent bien sûr en Grèce, comme Jean-Pierre l'a signalé, mais aussi en Italie, au Mexique, en Tanzanie, en Ouganda. Il y a quand même quelques destinations à l'étranger ouvertes. Et je voudrais juste m'attarder une seconde là-dessus, c'est qu'actuellement, on survalorise le voyage en France, le voyage local. On a de bonnes raisons de le faire à la fois pour redynamiser, revitaliser, enfin faire survivre même le tissu touristique français. Mais on a aussi une mauvaise raison, je trouve, c'est celle de penser que le tourisme lointain serait nocif, notamment à cause des émissions, à cause du surtourisme, etc. Ce n'est pas entièrement faux, mais ça passe gravement sous silence l'apport social et économique pour les pays du Sud du tourisme. Et d'ailleurs, de presque toutes les formes de tourisme, bien sûr. Bon, je vais valoriser plus particulièrement le tourisme d'aventure, qui est, on va dire, le plus responsable possible. Mais même un tourisme plus populaire amène des ressources aux pays du Sud qui sont indispensables. Aujourd'hui, 100 millions de personnes ont perdu leur emploi et leurs ressources dans les pays du Sud à cause de l'arrêt du tourisme. Dans des emplois non délocalisables, accessibles à des personnes avec peu de formation, ces emplois permettent de protéger le tissu social, mais aussi la nature, il ne faut pas l'oublier. Les parcs nationaux en Afrique sont actuellement en déshérence du fait de l'absence du tourisme et le braconnage se développe, etc. Alors, je referme juste la parenthèse. Ce n'est pas la tendance actuelle, bien sûr, parce qu'on ne peut pas voyager dans beaucoup d'endroits à part, je veux dire, en Afrique, principalement en Tanzanie et au Kenya. Mais il faudra y revenir parce que ça reste extrêmement vertueux, y compris sur le plan écologique, à condition, bien sûr, qu'on prenne en compte les impacts négatifs, notamment les émissions les absorbants. Ça ne répond pas tout à fait à votre question.
Jean-Pierre, vous voulez vous interpeller, Fabrice, Jean-Pierre, Nadir, je vous écoute.
Non, en fait, je voulais plutôt compléter ce que dit Yves. Je pense que, effectivement, donc, c'est un autre débat que celui qu'on a ce soir, mais c'est un débat qui est extrêmement intéressant et qu'on pourrait appeler donc, flux migratoire ou flux touristique, hein, puisque très clairement, donc, aujourd'hui, il y a le tourisme, quand certains veulent le supprimer, aurait des conséquences désastreuses. On rappelle que 20% de l'emploi mondial, effectivement, est de manière directe ou indirecte, donc occupé par des gens qui bossent pour le tourisme. Et donc, c'est vrai que c'est très important et que dans le rapport Nord-Sud, c'est un des leviers, évidemment, de développement économique. Je rappelle juste que certaines destinations ont 70%, comme les Maldives, de leur PIB qui est lié donc, au tourisme. Hein, 70%.
Je donne la parole maintenant à Lucas Schmitter, hein, je rappelle, directeur de Croisière Europe. Chez vous, quelles sont les tendances, là encore, qu'est-ce qu'on peut faire cet été lorsque l'on vient vous voir et quelle est la demande des derniers mois, justement?
Encore une fois, la tendance, elle est principalement sur la France, mais également sur les pays européens de proximité. Nous, oui. Nous on a démarré nos croisières dès le mois de juin au Portugal, sur le Douro ou en Croatie, sur l'Adriatique, puisqu'on a également deux petits bateaux maritimes. Donc, on observe vraiment ce comportement. Mais comme le disaient mes confrères, et c'est vrai qu'il y a aussi quand même encore une envie d'aller plus loin. Et peu à peu, certains pays s'ouvrent. Nous, on a aussi une activité en Afrique. Pour l'instant, ça n'a pas repris. Oui. Mais on sent bien que les gens sont en attente et sont prêts à repartir dans la limite évidemment des stop and go du moment.
Lucas Schmitter, ça veut dire que votre boulot en ce moment, mais à tous d'ailleurs, c'est vraiment que c'est au jour le jour finalement en fonction de telles décisions d'un pays, de telles décisions sanitaires, etc. C'est vraiment, on ajuste quotidiennement.
Alors
presque.
On essaie d'anticiper au maximum, mais c'est sûr que c'était jusqu'à présent très compliqué. Alors je pense qu'avec la vaccination aujourd'hui, qui est la seule issue pour sortir définitivement de cette crise, c'est peut-être un peu moins compliqué, mais on voit bien que ça reste très fragile, donc on est très prudent. On a défait, comme tout le monde dans le tourisme pendant ces derniers mois, c'était très éprouvant. Mais là, on est quand même prudent mais optimiste, ça reprend. Les clients sont là, les premières croisières se passent très bien, les gens reviennent très heureux, donc on espère qu'une chose, c'est que la situation perdure et qu'il n'y ait plus de retour en arrière.
Merci. Je voudrais qu'on donne rapidement la parole à Andrés, étudiant de 20 ans. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous avoir contacté au 3921.
Merci à vous.
Les nouvelles tendances pour vous de voyage?
Les nouvelles tendances, c'est clairement le contact avec les vrais habitants des pays.
Ouais. Les vrais gens.
Les vrais gens, ouais, c'est ça. Et notamment... moi, je pense qu'il y a un ras-le-bol général sur les resorts, hôtels, vacances toutes préparées, et on peut reconnecter, quoi, c'est ça.
Notamment, vous, Andrés, vous voyagez avec en van, c'est ça?
C'est ça. Ouais. On prévoit, on a commencé, et ça va être l'été... on va partir un an.
D'accord, un an, oui. D'accord. Ah oui, d'accord.
Peut-être plus, on verra. En fait, le projet, c'est ça, c'est de voyager... là, nous, on entreprend un voyage d'un an, mais c'est un modèle de voyage, quoi, de partir sans passer par les avions, les grandes compagnies. Ouais. Ah, y a un train qui passe.
Mais on vous souhaite bon voyage à vous, Andrés. Merci de nous avoir contactés. On va terminer avec vous, Jean-Pierre Nadir. Y a aussi encore une tendance des bons plans de dernière minute. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on choisit un peu en fonction de ce qui va être décidé?
Oui, et ça va à contrario de tout ce qu'on a développé jusqu'à présent.
C'est ça.
Parce qu'il est clair qu'effectivement, donc le tourisme est beaucoup nourri de l'animation par le prix et que ça s'est souvent fait au détriment effectivement, donc, de la mise en valeur de l'offre. Et donc, ce qui est important, c'est de remettre en avant donc, les caractéristiques des produits, les valeurs effectivement, des produits, les intérêts donc, des produits et ensuite de trouver le meilleur prix. Et donc, un bon plan, ce n'est pas seulement donc, un bon prix, c'est un bon produit à un meilleur prix. Ça, il faut toujours effectivement donc, le rappeler. Donc là, comme le disait Andrés, c'est vrai que vous avez un tourisme effectivement, donc, d'immersion qui se développe énormément. Ce tourisme effectivement, donc, d'immersion, d'ailleurs, il n'exclut pas non plus les hôtels donc, dits de loisirs, puisque ces hôtels, en fait, ont fait le pari maintenant d'être ouverts sur les pays donc, et de faire rentrer le pays aussi dans les hôtels. On l'a vu en France avec des développements comme le MMA Shelter. L'énergie de la ville, l'énergie du pays rentre maintenant aussi dans les produits. Donc tout ça est interconnecté et il n'y a pas d'opposition, il y a plutôt de l'addition de bienfaits.
Jean-Pierre Nadir, le fondateur de Easy Voyage. Grand merci à vous. Merci également à Lucas Schmitter, directeur de Croisie Europe, et Fabrice Del Taglia, directeur général de Nomade Aventure. Grâce à vous, ce soir, on a un peu voyagé. C'était bien agréable. Merci, grand merci.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le Club Tour à Libourne. Ce soir, on va retrouver Axel May et Richard Virenque. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et place au Club Tour à Libourne ce soir.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Énergie. Tout de suite, retrouvez le Club Tour.
Et bonsoir Axel May.
Bonsoir Thierry.
Alors Axel, ce soir un Slovène qui s'impose à Libourne et un Cavendish qui ne dépasse pas le record d'Eddy Merckx.
Et oui, pas d'arrivée au sprint massif qui aurait pu voir Mark Cavendish décrocher une 35e victoire d'étape et dépasser le record du roi Eddy. Non, c'est Matej Mohoric qui s'est imposé en solitaire. Alors c'est une petite surprise parce que Mohoric, alors pas que Mohoric s'impose car on connaît ses qualités de rouleur, il avait déjà gagné en solitaire au Creusot à l'issue de la première semaine du Tour de France. Non, la petite surprise, c'est que l'arrivée ne se soit pas jouée au sprint. Alors je dis petite surprise, bonsoir Richard Virenque.
Bonsoir à tous.
Je dis petite surprise parce que plusieurs coureurs avaient expliqué un dès hier à ma camarade Marguerite Lefebvre qu'une échappée pouvait aller au bout et c'est ce qui s'est passé Richard.
Oui, il y avait deux options, hein. Ou l'échappée part et les sprinteurs roulent derrière,
où l'échappée, comme on a vu, 20 coureurs à l'avant et toutes les équipes de sprinteurs quasiment représentées. Donc on s'est dit, on est à la fin du tour, on va rouler 200 km. Tout le monde est un peu fatigué, donc l'échappée est partie. La preuve, ils sont allés au bout.
Ils sont allés au bout, et ce qui veut dire que Mark Cavendish se réserve encore une opportunité de dépasser le nombre de victoires d'étape co-détenu désormais avec Eddy Merckx lors des Champs-Élysées dimanche.
Oui, je crois que ça peut le faire, et ils vont tout mettre en œuvre. Hein. Donc Mark Cavendish est sorti, on va dire, des Pyrénées avec ce maillot vert. Ben pour lui aujourd'hui, ça a été une bonne journée de récupération, même s'il a eu 200 km à faire. Demain, il y a un contre-la-montre, donc il va récupérer aussi. Et il est clair qu'ils vont tout mettre en place hein, pour essayer de l'emporter ben, sur les Champs-Élysées. Vous imaginez, à 36 ans, gagner 6 étapes dans le Tour de France. Sachant que Mark Cavendish était il y a 10 mois loin de tout ça.
Ouais, et il y a cette belle image qu'on a vue au départ de Mourinx où en 69 Eddy Merckx avait fait une entrée retentissante dans l'histoire de la Grande Boucle. Il avait fait un raid solitaire de 140 km et il était déjà en jaune et il avait à l'époque relégué la concurrence à plus de 8 minutes. Et bien Eddy Merckx a pris dans ses bras au départ Mark Cavendish avec son maillot vert, et c'était une belle image entre deux champions. Pour revenir à Matej Moric, il a donc réussi à fausser compagnie à l'échappée du jour. Il est parti tout seul hein, à 20-25 km de l'arrivée. Vent de face en plus, il faut quand même le faire hein, parce que quand vous avez le vent de face et que vous avez les autres derrière, il faut avoir de sacrées jambes.
Oui, mais il savait très bien qu'il fallait s'extirper de cette échappée pour pouvoir l'emporter. Donc il avait quand même la bonne jambe.
Et il a fait un signe sans ambiguïté hein, quand il a franchi la ligne d'arrivée. Il a fait chute de la bouche avec le signe de la fermeture éclair sur ses lèvres, comme pour dire taisez-vous à ceux qui ont critiqué l'équipe Bahrain Victorious. Et après, en interview, il a expliqué qu'il s'était un peu senti comme un criminel lorsqu'il y a deux jours, les gendarmes ont fait une descente à l'hôtel près de Pau hein, où était hébergée son équipe pour des soupçons de dopage, ce dont on a déjà largement parlé hier, Richard Virenque, sur cette antenne. Je vous propose d'écouter celui qui est arrivé deuxième de l'étape à 58 secondes, donc assez loin quand même de Moric. C'est un Français, Christophe Laporte.
La seule satisfaction que j'ai, c'est que j'ai fait la course que je voulais aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'avais envisagé au début de ce matin, un groupe de costauds qui sort et qui va jouer la gagne. J'y étais, c'était pas facile d'y être, j'étais content d'y être. Après j'ai fait la course vraiment, j'ai pas fait spécialement d'erreurs. J'ai couru assez juste, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais comme tout le monde, il y a eu beaucoup d'attaques. Quand il est sorti, je suis sorti en con derrière, mais j'ai pas réussi à rentrer, il était vraiment plus fort. Donc voilà, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai donné le maximum. Mais bien sûr, c'est décevant de faire deuxième.
C'est deuxième de cette 19e étape du Tour de France. Christophe Laporte, il avait déjà été deuxième. C'est à l'époque, il avait été battu par Démare. C'était lors de la 18e étape du Tour de France 2018. Christophe Laporte, il a réglé le sprint de l'échappée, hein, Richard Virenque.
Oui, très facilement. Hein. Et il s'en est fallu de peu hein, qui rejoigne Moric. En fait, je pense qu'il a réagi un poil trop tard. Et ensuite, une fois que Moric avait pris quelques secondes, c'était fini. Mais il s'en est fallu de peu. Hein. Christophe Laporte, qui est un coureur français, qui tourne autour des victoires du Tour de France, qui est un très bon sprinter. Et je pense qu'il est jeune encore, il a le temps de s'affirmer. Mais je pense que cette année, il n'est pas passé loin.
Oui, ouais, il n'est pas passé loin. Enfin, il fallait quand même qu'il y ait peut-être 10 km en plus pour qu'il arrive à rattraper, Moric, qui est quand même, je disais, 58 secondes d'avance en franchissant la ligne à Libourne. On va se rejoindre dans un instant à nouveau, Richard Virenque, et on parlera de celui qui est un peu la révélation française de ce Tour de France, Franck Bonamour. Il était encore dans l'échappée, et puis on parlera, alors que demain c'est le contre-la-montre, tout simplement d'une question qui interpelle souvent les auditeurs et les spectateurs, le prix d'un vélo de course.
Allez, à tout de suite, Axel May et Richard Virenque. Le Club Tour se poursuit dans un instant. Un peu de musique pour souffler dans Europe Soir avec Pink pour vous accompagner sur Europe 1. I've been dreaming, friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people. Someday we will, and even if.
that's far away. Get me through another day. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Wild flowers, they keep living high. Oh, they're just there still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place?
Cover me in sunshine, c'était Pink sur Europe 1.
Europe 1 en direct du Tour de France.
Et la suite du Club Tour, on rejoint dans le Bordelais Axel. Mais Axel, vous allez nous parler d'un coureur breton plein de promesses.
Oui, ici à Libourne, la révélation de ce Tour de France. On l'a encore vu devant, on va l'écouter. Et puis après, je ferai réagir Richard Virenque. C'est Franck Bonamour de l'équipe BNB, l'équipe bretonne de Jérôme Pinot.
Je me suis encore montré aujourd'hui, je fais toute l'étape devant, ouais, j'ai fait 6 échappées, dont 5 qui vont au bout. Donc ouais, pour moi, mon tour a réussi. Ouais.
Franck Bonamour, 26 ans, le coureur de Lannion qui participe à son premier grand tour et tout simplement à son premier grand tour de France. Quand je dis grand tour, c'est aussi en comptant les grands tours italiens et espagnols. Il continue à nous épater, à vous épater, Richard Virenque, Franck Bonamour, même si ce sont des places d'honneur.
Oui, exactement. Déjà, il a beaucoup de chance. Pourquoi ? Parce que il a fait le départ du Tour en Bretagne. Il était à domicile et comme il dit, 5 fois échappé, mais 5 fois l'échappé va au bout. Bon, c'est sûr qu'il a pas gagné. Il a pris l'air, on va dire, mais c'est un coureur attaquant et il reviendra avec d'autres ambitions. Donc, c'est une très bonne chose.
Et en tout cas, on va en rester là du côté des victoires françaises, parce que c'est pas demain sur le contre-la-montre qu'on aura une victoire française. A priori, c'est pas non plus dimanche au sprint. Donc il n'y a eu qu'une seule victoire française sur ce Tour de France, c'était Julien Alaphilippe le premier jour. Alors c'est déjà arrivé, je crois que c'était en 2016. Il avait fallu attendre la fin du Tour pour que Romain Bardet s'impose et apporte à la France une première victoire d'étape. Mais c'est quand même, alors c'est une statistique qui vaut ce qu'elle vaut, cette statistique, Richard Virenque. C'est la première fois depuis 1999 qu'il n'y a pas un coureur français d'une équipe française, puisqu'il est dans une équipe belge, Julien Alaphilippe, qui remporte une étape du Tour de France. Vous dites quoi, Richard ? C'est symptomatique ou au contraire, c'est les faits de course qui ont abouti à cette statistique ?
Ouais. Bon, pour Julien Alaphilippe, écoutez, l'année passée, il s'est imposé aussi. C'est sûr qu'il n'était pas dans une équipe française. Mais il est quand même français avec un maillot de champion du monde. Bon, c'est vrai, c'est des statistiques qu'on met comme ça pour dire que. Mais bon, Alaphilippe, il confirme quand même. Après, les autres coureurs, malheureusement, certains sont pas venus, comme Thibaut Pinot qui avait la pointure il y a quelques années de gagner des étapes, de faire le classement général, ne sont pas là. Romain Bardet, la même chose. Donc, maintenant, c'est Guillaume Martin qui, l'année passée, avait fait une 10e place au classement général, qui est revenu pour jouer des étapes. Et bon, en jouant des échappées, s'il replace au général, il finira dans les 10 premiers du général. Donc, écoutez, on a vu David Gaudu aussi s'exprimer. Il faut laisser le temps au temps aux Français, je pense.
Avec Guillaume Martin, qui était 11e l'année dernière, premier français. Et là, il est 8e. Alors, même s'il y a le contre-la-montre demain, il devrait quand même conserver sa 8e place, ou en tout cas rester dans le top 10. Le contre-la-montre demain, dernier contre-la-montre de ce Tour de France, avant-dernière étape, c'est pour Tadej Pogacar, Richard Virenque.
Écoutez, ce contre-la-montre-là, en général, sur la fin du Tour, c'est l'état de forme, de fraîcheur des coureurs. Bon, lui, pour se faire plaisir, il va peut-être le faire à fond, mais il a course gagnée, ça c'est sûr. Mais oui, on va dire que ce qu'il nous a montré la première semaine et l'étape des Pyrénées qui nous a montré les deux étapes reines, Pogacar devrait logiquement l'emporter dans ce contre-la-montre.
Et j'ai une question maintenant, c'est la question du jour, le prix des vélos, parce que les prix sur les contre-la-montre sont toujours c'est des vélos un peu extraordinaires, mais un prix de vélo de course, c'est 10, 12 000 euros, c'est cher, c'est plus cher que ce qu'on peut voir dans le commerce. Entre l'époque où vous avez démarré le vélo et aujourd'hui, Richard, vous êtes surpris par cette évolution assez fantastique des vélos ?
Oui, une belle évolution. Bon, il y a les freins à disque qui ont fait leur apparition maintenant depuis 2 ans. Donc ça, la légèreté du vélo à mon époque, c'était quasiment la même. Je pense que les vélos sont un peu plus rigides, parce que j'ai la chance de pédaler encore et d'avoir des vélos, on va dire, nouvelle génération. Donc la rigidité, c'est la rigidité, on gagne en rigidité. La légèreté, on n'a pas le droit de dépasser 6,9 kg. Donc et tout ce qui est câble, gaine, et ben ça n'existe plus. On est sur des dérailleurs électriques. Avant, arrière. Donc, on va dire, on gagne en inertie peut-être et en pénétration dans l'air. Vous voyez, le vélo sont beaucoup plus, ils rentrent beaucoup plus dans l'air que peut-être à notre époque. Mais en tout cas, pour les prix, déjà à notre époque, un beau vélo, on était, en tout cas, en 2004, quand j'étais encore coureur cycliste professionnel, on était autour de 10 000 euros, à peu près 8 000 euros, un très beau vélo. Donc, on va dire, on a pris 20-30% peut-être sur les vélos, à peu près.
Ouais, et ben je vous propose pour terminer ce Club Tour d'écouter Pascal Carré. Il est responsable communication chez Lapierre, la seule marque française qui équipe une équipe du Tour de France, en l'occurrence Groupama FDJ. Et alors, je lui ai posé notamment la question sur le poids des vélos, les fameux 6,8 kg, si on pouvait aller au-dessous de ce poids autorisé par l'Union Cycliste Internationale. Écoutez sa réponse.
Après, il faut savoir que le poids donné par l'UCI, c'était un poids qui avait été décidé avant qu'il y ait les freins à disque, avant qu'il y ait le carbone qui soit majoritaire dans la construction des vélos. Donc c'est un poids qui est très facilement atteignable. On peut très bien faire un vélo à 5,5 kg en choisissant certains composants. Donc ça, c'est pas un problème.
À un moment, on entendait dire l'aluminium, c'est bien, c'est moins fragile que le carbone. Là, on a vu lors des chutes au début du Tour de France un vélo qui était coupé en deux au niveau de l'arrière. Est-ce que c'est des a priori, ou est-ce qu'effectivement il y a une fragilité lors des grosses chutes un peu plus supérieure avec le carbone qu'avec l'alu?
Déjà, il faut savoir que les vélos sont pas conçu ou pas constitué pour chuter, c'est-à-dire que le carbone n'est pas fait pour amortir les chocs. Donc quelque part, c'est un matériau qui ne se déforme pas. Donc de fait, dès qu'il y a un choc ou un impact violent, effectivement, ça casse. C'est la spécificité du carbone. On peut pas aller contre ça.
Comment on fait pour mettre si on veut mettre le vélo avec des poids, le vélo avec jaune, ça se fait comment? Il y en a en réserve?
On anticipe. Ouais. Ouais, on anticipe en fait le maillot potentiel avec un coureur potentiel. Donc ça veut dire qu'on anticipe des tailles de cadre à la couleur dont on sait que le coureur a potentiellement des chances d'avoir soit le maillot à poids, soit le maillot jaune.
Ou le maillot vert. Pour ne pas le citer, par exemple, Arnaud Démare, il y avait potentiellement, avant son abandon, un vélo vert disponible.
Potentiellement, oui.
Voilà, Pascal Carré des cycles Lapierre. Richard Virenque, très rapidement, vous aviez des vélos avec des poids déjà préparés?
Écoutez, quand c'est arrivé, ou quand ça arrive, je me rappelle que des vélos étaient fabriqués, écoutez bien, mis en peinture après l'étape dans des fabriques, et toute la nuit, le vélo arrivé le matin de bonne heure sur le tour était monté pour que je puisse le prendre au départ. Donc à deux reprises, que ça soit quand j'ai pris un maillot jaune ou quand j'ai pris le maillot à poids, bon, après le maillot à poids, je le prenais tellement souvent que c'était de réserve, mais voilà, mais je sais que des fois, ben, ça a été fait vite fait comme ça, bien fait, pour faire un clin d'œil. Quoi.
Merci beaucoup, merci messieurs. Demain, avant dernière étape entre Libourne et Saint-Émilion, contre la montre de 31 km dans les vignobles.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Énergie, l'électricité et le gaz, jusqu'à 10% moins cher et des services pour mieux consommer. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Europe 1. Thierry Dagiral.
Dans un instant, direction les Vieilles Charrues. Hello, Émilie Mazoyer.
Hello, Thierry Dagiral.
Et ça se termine demain, d'ailleurs, les Vieilles Charrues.
Dimanche.
Ah, non, ah deux jours, savez, ça va encore.
Fait... Oui, on a encore plein de beaux concerts.
Superbe.
Et ce soir, notamment, celui de la jeune femme qui a reçu la victoire de l'artiste féminine de l'année, c'est Pomme. À côté. Elle a repris du Mylène Farmer, Thierry. Mais ça va être trop bien. Et c'est ce soir sur Europe 1, entre 20h et 22h, depuis les Vieilles Charrues.
Super, bonne soirée, Émilie, à tout à l'heure.
Merci Thierry.
Dans un instant, l'info revient avec Romain Oquet. On se retrouve avec grand plaisir lundi. Très bon week-end à tous sur Europe 1.